J'ai remarqué que Mademoiselle Darcieux laisse entr'ouverte la fenêtre de son cabinet de toilette, n'est-ce pas ?
Oui, une habitude que je lui ai donnée.
C'est par là que l'on viendra.
Mais vous ?
C'est aussi par là que je viendrai.
Et vous savez qui est ce misérable ?
Lupin hésita, puis répondit « Non, je ne sais pas. Et justement, comme cela, nous le saurons. Mais je vous en conjure, du sang-froid. Pas un mot, pas un geste, quoi qu'il arrive. »
« Je vous le promets. »
« Mieux que cela, docteur. Je vous demande votre parole. »
« Je vous donne ma parole. »
Le docteur s'en alla. Aussitôt, Lupin monta sur un tertre voisin, d'où l'on apercevait les fenêtres du premier et du second étage. Plusieurs d'entre elles étaient éclairées. Il attendit assez longtemps. Une à une, les lueurs s'éteignirent. Alors, prenant une direction opposée à celle du docteur, il bifurqua sur la droite et longea le mur jusqu'au groupe d'arbres près duquel il avait caché sa motocyclette la veille. 11 heures sonnèrent. Il calcula le temps que le docteur pouvait mettre à traverser le potager et à s'introduire dans le château. « Eden, de ce côté-là, tout est en règle. À la rescousse, Lupin, l'ennemi ne va pas tarder à jouer son dernier atout. Et fichtre, il faut que je sois là. » Il exécuta la même manœuvre que la première fois, attira la branche et se hissa sur le bord du mur, d'où il put gagner les plus gros rameaux de l'arbre. À ce moment, il dressa l'oreille. Il lui semblait entendre un frémissement de feuilles mortes. Et de fait, il discerna une ombre qui remuait au-dessous de lui et 30 mètres plus loin. « Crebleu, je suis fichu. La canaille a flairé le coup. » Un rayon de lune passa. Distinctement, Lupin vit que l'homme épaulait. Il voulut sauter à terre et se retourna. Mais il sentit un choc à la poitrine, perçut le bruit d'une détonation, poussa un juron de colère et dégringola de branche en branche comme un cadavre. Cependant, le docteur Guéroux, suivant les prescriptions d'Arsène Lupin, avait escaladé le rebord de la 5e fenêtre et s'était dirigé à tâtons vers le 1er étage. Arrivé devant la chambre de Jeanne, il frappa 3 coups légers, fut introduit et poussa aussitôt le verrou.
« Étends-toi sur ton lit !»
dit-il tout bas à la jeune fille qui avait gardé ses vêtements du soir.
« Il faut que tu paraisses coucher. Bon, il fait pas chaud ici. La fenêtre de ton cabinet de toilette est ouverte. »«
Oui, et voulez-vous que... »«
Non, laisse-la. On va venir. »«
On va venir ?»«
Oui, sans aucun doute. »«
Mais qui est-ce que vous soupçonnez ?»
« Je ne sais pas. Je suppose que quelqu'un est caché dans le château ou dans le parc. »«
Oh, j'ai peur. »«
On n'est pas peur. Le gaillard qui te protège semble rudement fort et ne joue qu'à coup sûr. Il doit être à l'affût quelque part dans la cour. »
Le docteur éteignit la veilleuse et s'approcha de la croisée, dont il souleva le rideau. Une corniche étroite qui courait le long du premier étage ne lui permettant de voir qu'une partie éloignée de la cour, il revint auprès du lit. Il s'écoula des minutes très pénibles et qui leur parurent infiniment longues. L'horloge sonnait au village, mais, absorbés par tous les petits bruits nocturnes, c'est à peine s'ils en percevaient le tintement. Ils écoutaient. Ils écoutaient de tous leurs nerfs exaspérés.
« Tu as entendu ?»«
Oui !» « Oui !»
dit Jeanne qui s'était assise sur son lit.
« Couche-toi ! Couche-toi ! On vient !»
Un petit claquement s'était produit dehors, contre la corniche. Puis il y eut une suite de bruits indistincts dont il n'aurait su préciser la nature. Mais ils avaient l'impression que la fenêtre voisine s'ouvrait davantage, car des bouffées d'air froid les enveloppaient. Soudain, ce fut très net. Il y avait quelqu'un à côté. Le docteur, dont la main tremblait un peu, saisit son revolver. Il ne bougea pas néanmoins, se rappelant l'ordre formel qui lui avait été donné et redoutant de prendre une décision contraire. L'obscurité était absolue dans la chambre. Il ne pouvait donc voir où se trouvait l'ennemi. Mais il devinait sa présence. Il suivait ses gestes invisibles, sa marche assourdie par le tapis. Et il ne doutait point qu'il n'eût franchi le seuil de la chambre. Et l'ennemi s'arrêta. Cela, ils en furent certains. Il était debout, à 5 pas du lit, immobile, indécis peut-être, cherchant à percer l'ombre de son regard aigu. Dans la main du docteur, la main de Jeanne frissonnait, glacée, couverte de sueur. De son autre main, le docteur serrait violemment son arme, le doigt sur la détente. Malgré sa parole, il n'hésitait pas. Que l'ennemi touchât l'extrémité du lit, le coup partait, jeté au hasard. L'ennemi fit un pas encore, puis s'arrêta de nouveau. Et c'était effrayant, ce silence, cette impassibilité, ces ténèbres où des êtres s'épiaient éperdument. Qui donc surgissait ainsi dans la nuit profonde? Qui était cet homme? Quelle haine horrible le poussait contre la jeune fille? Et quelle œuvre abominable poursuivait-il? Si terrifiés qu'ils fussent, Jeanne et le docteur ne pensaient qu'à cela. Voir, connaître la vérité, contempler le masque de l'ennemi. Il fit un pas encore et ne bougea plus. Il leur semblait que sa silhouette se détachait, plus noir sur l'espace noir, et que son bras se levait peu à peu. Une minute passa, et puis une autre. Et tout à coup, plus loin que l'homme, vers la droite, un bruit sec. Une lumière jaillit, ardente, fut projetée contre l'homme, l'éclaira en pleine face, brutalement. Jeanne poussa un cri d'épouvante. Elle avait vu, dressé au-dessus d'elle, un poignard à la main, elle avait vu son père. En même temps, presque, et comme la lumière était éteinte, une détonation. Le docteur avait tiré. « Crebleu, ne tirez donc pas !» hurla Lupin. À bras-le-corps, il empoigna le docteur, qui suffoquait.
« Vous avez vu ? Vous avez vu ? Écoutez, il s'enfuit !»«
Laissez-le s'enfuir, c'est ce qu'il y a de mieux !»